veux que chaque problème que j'ai s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Je veux que chaque problème que j'ai s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique, y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs flinguent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont bêtas par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS foncent dès une église. Les keufs chauffent.
Je vois des femmes sans crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Tu t'occupes des enfants au lieu de soigner des monuments.
C'est pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France.
T'as vu la merde que c'est pas une solution de fermer les yeux.
Il faut que je me venge, alors je fais couler l'encre.
Pour qui je vote? Celui qui défend ma cause ou bien un voyou de la route?
À gauche comme à droite, tous la même requête.
On fait flipper la France ici, les poètes contre leurs écrits.
Et dans un style réfléchi, je développe ma rhétorique.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Frontline 106.3.
Bonsoir Frontline 106.3, les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois. Bon, le petit rappel pour commencer, vous pouvez retrouver les émissions sur bboyconscient.com, sur la page Facebook de Frontline. Il y a l'adresse mail si jamais vous voulez nous envoyer pas mal de trucs, c'est frontline.fpp@gmail.com. Et cette semaine, on a pas mal de choses à dire, donc on va enchaîner assez rapidement. Je vous dis juste que on reçoit aujourd'hui Issad, donc qui est membre de la brigade anti-négrophobie. On présentera la brigade et également le livre qu'ils ont sorti récemment, Autopsie de la négrophobie. Donc voilà, on va enchaîner tout de suite avec un morceau de Grady Tate. Le titre, c'est Be Black. C'est un morceau qu'on retrouve sur une compile. On a déjà passé pas mal de morceaux. La compile s'appelle The Soul of the Black Panther Era Volume 1 et on retrouve Marvin Gaye, Jill Scott Heron, Last Poet, il y a Curtis Mayfield. Voilà, c'est que des morceaux qui sont en référence, qui parlent du Black Panther Party. On écoute tout de suite Grady Tate et le titre, c'est Be Black.
That black pride's everywhere. You'll want to shout and sing. Come on and do your thing. Oh, be black, baby, be black. Oh, be black, baby, be black. Be black, baby. Be black.
Come on, join the crowd. We'll make a magic cloud. We'll ride on top, it's back. We'll turn the daylight black, 'cause there's black pride everywhere. So don't you get up tight.
Frontline 106.3.
C'est trop long, quoi.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc on est avec Issa de La Banne, Brigade Antinégrophobie. Bonsoir. Avec Joe et Manu d'Angle Mort.
Bonsoir.
Donc bah, pour commencer, on va essayer de présenter un peu La Banne. On viendra après sur le bouquin Autopsie de la négrophobie. Et ensuite, on parlera du bouquin pour lequel Manu et Joe sont venus, Les Frères de Soledad. Et en dernier lieu, on essaiera de parler un petit peu de l'affaire de la famille Saonera et de l'actualité et des agendas. Donc, salut Issa.
Salut.
Merci d'être venu. Est-ce que tu peux nous présenter un peu La Banne et puis les activités ou les interventions
ouais, bien sûr.
De La Banne ?
Donc, déjà, merci de nous inviter et de permettre de parler de nous. C'est tellement, je veux dire, il y a tellement peu de radios militantes et c'est pour ça que c'est important de louer la vôtre et le travail que vous faites. Donc pour parler de La Banne, on a été créé en 2005. Cette année-là, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait qu'il fallait qu'on s'organise. Il y a eu une vraie prise de conscience en gros, car il y a eu notamment les événements de la mort de Ziad Ebouna, donc qui était poursuivi par la police, etc. Donc on est dans le contrôle au faciès et donc ils étaient poursuivis et ils sont morts dans une centrale électrique. Cette année-là, il y a eu aussi des événements tragiques, donc les morts de l'incendie boulevard Auriol et l'incendie Opéra, donc quasiment des victimes que d'Afrique subsaharienne. Donc là, il y avait des familles entières avec des enfants, etc. Et ces morts sont les conséquences du mal logement, parce qu'ils étaient, ils étaient dans du provisoire qui a duré 15 ans. Et donc là, la négrophobie était vraiment à la lumière du jour, parce que on sait que la négrophobie actuelle se dessine en tout cas sur une forme un petit peu plus subtile, puisqu'on est dans une ère néocoloniale. Et donc là, c'est présenté vraiment, elle nous a vraiment frappé à la figure. Et donc là, on a décidé de s'organiser, de créer le collectif anti-négrophobie et de combattre tous les actes de négrophobie, de combattre. Donc c'est notre ligne de conduite, c'était de combattre la négrophobie, le racisme et d'État. Car depuis, on sait que depuis plusieurs années, il y a eu des associations antiracistes qui ont proféré en France et qui étaient bien vues par l'État et même financées par l'État. Et ces associations-là, en gros, elles nous ont dupés depuis plusieurs années. Et donc, donc là, on a décidé de s'organiser parce que c'est jusqu'à présent, on avait l'habitude qu'on parle à notre place, qu'on dise là où on a mal, qu'est-ce qu'on devait faire, où on a mal, comment agir, etc. C'est du vrai paternalisme. Et là vraiment, on agit par nous-mêmes et on sait quand est-ce qu'il faut réagir ou comment réagir, etc. Et on réfléchit par nous-mêmes, on analyse par nous-mêmes. Et donc notre but, c'est vraiment... c'était vraiment d'apprendre, de faire en sorte que les gens apprennent à lire entre les lignes du racisme d'État, parce que c'est un racisme qui est subtil, et il y a des propos qui sont proférés par les plus hautes sphères de l'État, et il ne faut rien laisser passer. Donc nous, notre ligne de conduite, c'est de ne rien laisser passer pour montrer un visage plus digne et ne plus montrer une image où... qu'on a voulu nous montrer de nous, où où on courbe les chines, on baisse la tête, etc. et on rase les murs. On sait que c'est pas le cas, que ça n'a jamais été, que ça a jamais été le cas, mais l'image que la France a voulu donner des Noirs, ben c'est l'image des gens qui sourient, qui baissent, enfin qui courbent les chines, qui rasent les murs, etc. et qui se laissent faire. Donc nous, on veut démonter toute cette image et montrer une image digne et donc ne rien laisser passer. Ça permet de changer, en tout cas dans l'inconscient collectif, l'image du noir en France.
Et ça se traduit comment? C'est-à-dire que la brigade, il y a un statut particulier, c'est une asso, c'est un collectif informel. Et c'est composé en gros de qui, enfin tu vois, de... C'est...
Ben le collectif antinégrophobie ou brigade antinégrophobie n'est pas une association loi 1901, etc. En tout cas, il n'y a pas de statut, enfin, il n'est pas déclaré, etc. Mais
c'est un collectif de gens qui
décident de s'organiser, de combattre le racisme dans le fond et plus dans la forme. Et donc les gens qui composent ce collectif sont d'un peu partout, ça peut être en Île-de-France ou autre. Mais nous, on a pour ligne de conduite de ne pas en gros forcer la main aux gens qui composent ce collectif. Après, il y a des leaders, mais en tout cas pour les gens qui sont membres de ce collectif, notre ligne de conduite, c'est de ne pas les culpabiliser. Parce que pour nous, la lutte, elle doit être sincère. C'est-à-dire que ceux qui prétendent lutter contre le racisme d'État et la négrophobie doivent d'eux-mêmes être persuadés que c'est une lutte qui mérite, en tout cas qui mérite d'être faite. Et donc, si par exemple des gens sont moins disponibles, s'absentent complètement, on ne va pas les culpabiliser. Ou leur taper sur les doigts, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas, il n'y a pas de cotisation de ce style-là ou en tout cas d'adhérents, de cartes d'adhérents ou autre. Mais en tout cas ceux qui sont déterminés à combattre le racisme d'État sont présents. Et après ceux qui viennent occasionnellement, parce qu'on sait comment ça se passe dans cette société, c'est pas évident. Travail, etc. Beaucoup de choses nous enchaînent et nous empêchent d'aller à l'essentiel. Et donc, voilà, nous, c'est vraiment notre ligne de conduite. Après, on peut pas donner de nombre exact, combien nous sommes, etc. Mais on peut être très, très nombreux, comme très peu, sur certaines actions. Comme, par exemple, je donne un exemple, à Guerlain, la première fois qu'on a attaqué Guerlain, on était peut-être 10, mais en tout cas, on était efficace. On a frappé bien et fort, et ça a permis de lancer une offensive sur Guerlain, et ça a lancé...
une dynamique,
ça a lancé,
en fait.
Ça a lancé la dynamique, en tout cas, ouais, comme tu dis, la dynamique a été lancée, et puis derrière, il y a eu ce qu'il y a eu, et ce que ça a donné, notamment... on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu... un mécénat pour lutter contre la maladie qui touche beaucoup les Noirs, la drépanocytose. Et donc, un mécénat de plus de 600 000 euros. Et c'est important de dire que LVMH, grâce à plusieurs négociations, a lâché ce mécénat-là pour, en tout cas, dédommager, par rapport aux propos qu'a tenu Jean-Paul Guerlain.
Ok, ouais, parce que vous faites pas mal d'actions là, comme celle par rapport à Guerlain. Et c'est une des particularités aussi, c'est que voilà, vous allez sur le terrain, vous allez dans certaines rues qui portent certains noms pour dénoncer le fait, voilà, ou des magasins qui ont des noms.
Bon, il y a eu Guerlain, il y a eu Mango dernièrement qui a sorti un collier style esclave. Donc là, pareil, on est intervenu dans le magasin Mango et ils l'ont retiré des magasins. Il y a eu, il y a, bon là, par contre, là, on n'a pas eu une victoire, mais là, il y a une enseigne rue Contrescarpe dans le 5e arrondissement de Paris qui s'appelle le Nègre Joyeux. Donc ça, c'est vraiment une affiche, en tout cas, d'un noir qui est en train de servir une femme blanche, et donc c'est une apologie de l'esclavage et de la colonisation. Et donc nous on a dénoncé ça, on s'est tenu devant cette affiche pour dénoncer cette chose. Et après il y a eu un essoufflement qui s'est fait et donc là je dis pas qu'on a lâché l'affaire, mais en tout cas c'est en suspens. Peut-être qu'on reprendra une action par rapport à ça, parce que quand on lutte contre le racisme d'État et la négrophobie, il faut lutter dans le fond. Et ce genre de choses, c'est vraiment des choses dangereuses pour un enfant qui voit une image comme ça, un enfant noir, qu'est-ce qu'il va se dire. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rééquilibrer les choses. Il y a eu une campagne depuis des siècles. Une propagande pour dire que les Noirs étaient une race inférieure, etc. Et donc nous, notre but, c'est vraiment que dans l'inconscient collectif, cette image sorte de l'esprit des gens.
Ouais, vas-y.
Non,
une de vos fonctions, en tout cas comment vous vous définissez, c'est vraiment ça, c'est de mettre en évidence l'existence d'un racisme spécifique anti-Noir, quoi.
Ouais.
De démontrer que même si la fin de l'abolition de l'esclavage a été en 1848, mais en fin de compte, il y a toujours cet esprit-là qui reste, et sous différentes formes. Et donc c'est ça, en fait, aussi une des fonctions de la brigade, c'est vraiment de mettre en évidence ça, qu'il y a un racisme anti-noir, racisme d'État, et qui après se décline dans toute la société et tout ça, quoi.
Tout à fait. Et je dirais que ce racisme d'État est... En tout cas, parce que là, tu as parlé d'abolition, par exemple. Pour nous, ce n'est pas une abolition, c'est une fin qui a donné lieu à autre chose. Parce qu'en fait, on compare le racisme dans le livre, par exemple, Autopsie, on en parlera après, mais on compare le racisme d'État à une hydre du racisme. Comme l'hydre de Lerne, donc un monstre à plusieurs têtes. Donc il y a eu le trafic négrier, l'esclavage. Les différentes révoltes ont coupé la tête à l'esclavage. Donc devant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que l'esclavage soit aboli. En tout cas, ils ont fait mine que l'esclavage soit aboli, alors qu'ils étaient contraints de l'abolir. Et ça a donné lieu à la colonisation. Et la colonisation a donné lieu à la néocolonisation aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on est vraiment dans un racisme qui est très très dangereux, parce qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il est beaucoup plus subtil, et les gens lâchent la garde et sont beaucoup moins en alerte sur ce genre de racisme. Et donc nous, c'est vraiment éveiller les consciences sur... Notre but, c'est vraiment éveiller les consciences sur ce racisme d'État qui est très très dangereux, subtil, et qui rentre dans notre esprit petit à petit, mais qui rentre profondément et qui a du mal à en sortir. Que ce soit pour les Noirs ou les Blancs ou les autres. Il y a des préjugés qui rentrent dans l'esprit commun, dans l'esprit collectif, qui donnent des choses très très dangereuses, quoi.
Ok, bah ça, c'est ce qu'on vous développez dans le livre.
Oui.
On va faire une petite pause musicale, et puis après on va parler un peu plus du bouquin. Donc on va écouter le morceau Bois d'ébène de B. James, donc rappeur du collectif En Falche. Le morceau, il était sorti sur son album Acte de Barbarie, qui est un super album et qu'on a déjà passé pas mal de fois. Et le morceau, il se retrouve également sur la compilation de soutien aux prisonniers de Villiers-le-Bel, qui est dispo en CD, donc en soutien aux frères Camara, qui ont pris 12 et 15 ans de prison. Voilà.
Frontline 106.3.
De ces hommes grandis sans armes, ma jeunesse fait ses armes entre la xénophobie ambiante et l'attente du sésame. De cette lignée qu'on a saignée, brûlée, vendue, pendue et contre toute attente toujours vivante. Dans l'attente d'une hypothétique embellie, je veux faire payer ce pays. Ceux qui ont péri ne sont pas vengés, ce texte est un casus belli. Belligérant d'essence, moi et les miens sommes la prestance. J'ai toujours du mal avec leur notion de nation. Cesse de me regarder avec des yeux révulsés. Ici on pack dans des taudis et puis le lendemain on revient à t'en expulser. Et tant plus jeune, j'ai eu la naïveté de croire que je pouvais vivre dans l'insouciance, dans cette douce France tout en étant noir. Devoir, de mémoire oblige, mes lignes figent l'espoir et je laisse à part les utopies qu'on me laisse croire. Ils veulent nous cacher notre histoire, à croire qu'elle dérange les hautes instances qui préfèrent nous voir danser et boire. Loin des peines, hier c'était leur joie, nos peines, c'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. Loin des peines, hier c'était leur joie, nos peines, c'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. Le son est sombre comme le son nombre, d'âme sort pas l'âme, c'est qu'ici-bas chacun se débat dans la pénombre pour être plus que son ombre. Encore combien de frères tués sur la place publique pour que l'on punisse enfin les assassins de la République. J'en mets des baffes à tous ceux qui s'esclavent devant les esclaves. Je mets fin à la grève des glaives parce que mes semblables crèvent dans les enclaves. J'ai pas besoin de tuteurs si je peux me permettre. Aujourd'hui encore j'ai le seum quand je vois les petits appeler leur institut leur maître. Être l'instigateur de la révolte, harcelé constamment quand on me propose un siège, c'est qu'il envoie des milliers de volts. Sorte contrée, je parie à 1000 contre 1 que l'hexagone saura pas me contrer. Je suis avec l'entrain, la justice acquiesce quand la police appuie sur la détente pour éliminer les nègres ou les graisses. Mon faciès est un délit face au déni. On se ligue pour venger nos victimes. Ici on nous décime et ma couleur est bien trop souvent le seul mot. Point des graines. Hier c'était leur joie, nos peines. C'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. Point des peines. Hier c'était leur joie, nos peines. C'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. J'ai le sang de ceux qui ont été fouettés jusqu'au décès, les gènes de celles qui entre deux viols couchaient sur leurs urines et leurs selles. La tentation était grande de s'évader de la plantation, mais le risque de se faire prendre aussi vu son implantation. Étrange dilemme pour une mère mettre au monde un futur esclave ou tuer son fœtus in utero juste pour ne pas qu'il en bave. Personne ne sait ce que c'est. Effectivement les pages de l'histoire s'écrivent dans un bain de sang. Être forcé d'exister avec l'idée que tu ne t'appartiens pas, c'est rêver de liberté la nuit, puis se réveiller en sursaut sur sa paille en guise de matelas. Et toutes ces abominations ont vraiment eu lieu et la France a donné sa bénédiction. Mon histoire est tumultueuse, ta patrie une tueuse. Cette dernière creuse des tombes tout en sans croire qu'elle est pieuse. Après tous ces siècles de chants de coton, on sera toujours descendants d'esclaves et seront toujours descendants de coins et peines. Hier c'était leur joie, nos peines. C'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. Bois des peines. Hier c'était leur joie, nos peines. C'était notre sang contre leur chaîne, leur doctrine arienne. Une époque pas si lointaine, pour ne pas dire contemporaine. Ils veulent notre indulgence, mais l'indigence des indigènes. Bois des peines.
Vous êtes toujours sur Frontline 106.3. À l'instant, on vient d'écouter Bois d'Ébène de B. James, donc à retrouver sur son album et sur la compilation Liberté pour les prisonniers de Villiers-le-Bel. On est toujours avec Issa de la brigade anti-négrophobie. Donc, on voulait parler un peu plus donc, du bouquin qui est sorti récemment. Donc, déjà, le livre il s'appelle Autopsie. De la négrophobie et juste on peut dire vite fait où est-ce qu'il est disponible pour les gens que ça intéresserait.
Ouais, donc je peux donner les adresses. Il y a
bon, déjà il est disponible sur bboyconscient.com, sur la boutique en ligne et sur les tables B-Boy Conscient qu'on fait un peu partout et sur les concerts de première ligne. Et tu me disais ouais en tout à l'heure il y a cinq librairies sur Paris.
Oui, il y a cinq librairies. Il y a la librairie L'Armatan, 16 rue des Écoles, dans le 5e arrondissement. La librairie Résistance, donc 4 villas à Compoint, dans le 17e. Librairie Présence Africaine, 25 rue des Écoles, dans le 5e. la librairie Tameri, 19 rue Châtelet dans le 10e arrondissement. Et enfin, le magasin So and So, 136 boulevard Ney dans le 18e arrondissement. Donc c'est les 5 points où 5. On peut trouver... où on peut, on peut se procurer le livre Autopsie de la négrophobie. Ou sinon, en tout cas, nous, on essaye aussi de vendre ceux qui sont un peu plus loin, que ce soit même à l'étranger, on essaie de leur envoyer. Ils peuvent rentrer en contact avec nous sur Facebook, Brigade Antinégrophobie, Collectif Antinégrophobie.
Ouais. Il y a un site internet aussi qui est...
Oui, ça, c'est un WordPress.
Ouais.
Et... donc c'est un WordPress. Enfin, d'ailleurs le livre est dans, en tout cas le contenu du livre est dans ce site internet. Donc c'est www.brigadeantinégrophobie.wordpress.com.
Ok. Et en fait, vous l'avez écrit après une réflexion en vous disant que ce serait bien de mettre toutes vos idées, toutes vos réflexions et tout ça dans un livre et
Oui, exactement, parce qu'on s'est dit qu'on faisait beaucoup d'actions diverses et variées, hein, que ce soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des actions contre les crimes policiers, pour soutien des sans-papiers, des gens qui dorment dehors, qui sont expulsés, etc. Il y a vraiment plusieurs actions qui peuvent amener même des affrontements avec les policiers des fois. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait, qu'on laisse une trace de notre ligne de conduite, notre manière de voir le racisme d'État et la négrophobie. Et c'était important parce qu'on s'est dit que les gens ne nous connaissent pas forcément, ils peuvent parler, enfin certains peuvent dire. Peuvent nous qualifier de telle ou de telle chose, d'intégrationniste, de ceci, de cela, alors qu'ils ne nous connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on écrive ce bouquin.
Ça permet de clarifier les choses.
Ça permet de clarifier, et en tout cas de donner notre idéologie, notre point de vue sur ce racisme d'État qui perdure depuis des siècles.
Après quelques années d'activité, vous avez décidé d'écrire. Là, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais vous avez fini d'écrire l'année dernière, en gros. En tout.
Oui, voilà, on a terminé en gros de l'écrire en 2012. Et oui, même si la bande a été créée en 2005, c'est vrai qu'on s'est créé, on s'est créé dans l'urgence quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements cette année-là et il y a eu par la suite beaucoup d'actions et de mobilisation et on s'est pas posé pour écrire et laisser une trace de notre manière de voir le racisme et c'est important parce que il y a un jeu de dupes avec l'État français et les associations bien vues par l'État. Et jusqu'à présent, ils ont toujours fait croire que la lutte du racisme se faisait dans la forme, en tout cas en personnifiant le racisme, en pointant du doigt telle ou telle personne, etc. Et en pensant que ça permettrait de régler le problème du racisme, alors que ça n'a fait en fait que le renforcer, au contraire. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on aide en tout cas les plus jeunes et les moins jeunes, même à lire entre les lignes du racisme d'État et à ne plus laisser berner. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre.
Donc du coup, ce bouquin, il y a un avant-propos, puis sinon il est composé d'un chapitre sur le racisme d'État, ensuite les racismes populaires et l'autre les contre-racismes populaires. Donc je te laisse présenter un peu les trois idées du coup qui ont été développées.
Oui, donc les racismes d'État, comme je vous ai dit, le racisme d'État c'est présenté sous différentes formes, comme notamment il y a eu d'abord le trafic négrier, l'esclavage, puis ensuite la colonisation, et aujourd'hui on est dans une phase de néocolonisation. Et c'est cette capacité qu'a l'État français à se muer dès qu'il se sent en danger. En tout cas, il s'adapte et il arrive à créer un racisme encore plus fort et plus insidieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est très compliquée. Et si on n'a pas les bonnes lunettes pour en tout cas lire entre les lignes du racisme d'État, on ne pourra pas avoir ce racisme à l'œil nu. Certains se croient dans un état démocratique, dans le pays des droits de l'homme, où la justice bat son plein, etc. Alors que c'est loin, on est très très loin du compte. Aujourd'hui, la négrophobie, elle tue, et elle se matérialise par des contrôles policiers, des contrôles aux faciès, des crimes policiers. Il y a des discriminations au logement, discriminations à l'emploi, etc., etc. Et donc c'est important de parler de ce racisme d'État parce que l'État a cette capacité à en tout cas faire semblant de combattre le racisme, alors qu'en fait elle ne fait que le renforcer. Et c'est ça qu'on veut dénoncer à travers ce livre. Et lorsqu'on parle du racisme d'État, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de systémique qui a des répercussions sur une population bien précise.
Du coup, quand vous parlez dans le bouquin de la notion de suprématie blanche, c'est assez important pour comprendre comment fonctionne le racisme d'État. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Et aussi sur le point d'après, sur le génocide culturel, que ce sont deux notions. Bon, il y a d'autres écrivains qui avaient écrit là-dessus, pas mal d'auteurs, on ne va pas faire les références. Mmh. Mais bon, en gros, sur ces deux notions-là pour compléter.
Ben lorsqu'on parle de suprématie blanche, c'est que tout a été fait pour que le blanc soit en haut de l'échelle. Déjà, ils ont hiérarchisé les races, ils ont mis les blancs tout en haut de l'échelle des races et les noirs tout en bas. Et aujourd'hui, on le voit même dans les canons de beauté, etc. Tout est fait pour que le blanc soit admis comme une référence. Quand on voit des termes comme homme de... Pour nous distinguer les noirs, on nous appelle homme de couleur. Ça, c'est des termes racistes qui visent à dire qu'en gros, on n'est pas dans la normalité. Le blanc n'est pas un homme de couleur et le noir serait un homme de couleur. Nous disons que le blanc est une couleur comme le noir. Comment peut-on dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et en même temps dire que les Noirs seraient en dehors de la normalité, c'est-à-dire en dehors de la norme. Et donc c'est ça qu'on dénonce quand qu'on parle de suprématie blanche, et on l'illustre bien dans le livre à travers un syndrome qu'on a baptisé syndrome Tarzan. Pour résumer, c'est le film Tarzan de Johnny Weissmuller, qui était en 1912, un truc comme ça. 1912, oui. Et donc, Tarzan a été trouvé, abandonné dans la jungle, bébé, etc., élevé par les singes. Et en 1932, le film a été refait, mais les singes ont été remplacés par des noirs. Et dans ce film, la capacité qu'a Tarzan à se fondre dans la masse est exceptionnelle, parce qu'il arrive à gérer la jungle, en gros, il est le roi de la jungle, il arrive à défier toutes les lois de la nature. Et ça, c'est de la suprématie blanche, parce que les noirs qui sont... On appelle ça de la suprématie blanche, parce que les noirs qui sont dans ce film ne sont bons à rien. Ou à faire des petites mimiques. En tout cas, ils sont bons à rien. Et quand un enfant noir regarde ce film, en tout cas, il y a un fort complexe d'infériorité, parce qu'il a envie d'être le héros du film, et le héros du film est blanc. Et lorsqu'un enfant blanc regarde ce film, il a un fort complexe de supériorité, parce qu'il se dit que voilà, il est, il est, il fait partie d'une couleur suprématiste, en tout cas qui la couleur qui domine le monde. Et donc c'est ça qu'on dénonce quand on donne cet exemple de Tarzan, parce qu'il illustre très bien. Et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer, mais en tout cas la suprématie blanche, c'est ça, c'est vraiment faire la promotion de la hiérarchisation des races et dire que le blanc c'est la race supérieure, et ça a donné des crimes atroces comme l'extermination des Indiens, des aborigènes australiens, etc. Ça a donné également l'extermination des juifs par rapport au fait de la race aryenne, etc.
Ouais, c'est de mettre à chaque fois.
Et c'est vraiment quelque chose de très très dangereux, et c'est de ça qu'on parle dans ce livre. Et en gros, on essaye vraiment de dire que le combat, il est avant tout idéologique, parce que si dans notre inconscient, dans notre esprit, on n'arrive pas à prendre conscience que toutes ces choses là nous empoisonnent, eh bien on pourra pas guérir le mal qui nous ronge tous. Quand je dis qui nous ronge, je m'inclus aussi dedans. Donc voilà.
Mais moi je voulais demander à Issa, ouais, par rapport, tu dis que le combat est idéologique, et du coup dans le bouquin vous incitez pas mal sur le rôle de l'école. Donc tu pouvais dire deux mots, parce que voilà, l'école c'est comme un vecteur principal de transmission de...
Ouais, au même titre que les médias de masse et tout ça,
C'est les deux grands leviers, les médias de masse et l'éducation nationale. D'ailleurs on compare l'éducation nationale de Jules Ferry au syndrome Tarzan, parce que Jules Ferry avait disait en des termes qu'il avait un devoir pour les races supérieures de civiliser les races inférieures. Et c'est Jules Ferry qui a inventé l'école obligatoire, gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc, quand on dit que l'école est un vecteur important pour le racisme, en tout cas pour disséminer le racisme d'État avec les médias de masse, l'école, concrètement, je suis allé à l'école. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école sur me concernant, que les Noirs étaient esclaves. C'est tout ce que j'ai appris. Les grands hommes étaient tous blancs. Ceux qui inventent aucune invention n'est venue d'un Noir. Toutes les inventions sont originaires d'un. C'est un blanc qui est originaire de toutes les inventions quand on va à l'école. Et donc, quand on nous apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors qu'en fait ils ont exterminé les Indiens, bien ça montre la dangerosité de l'éducation nationale. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on dénonce, et c'est pour ça qu'il y a un travail important, en tout cas en tant que parents, pour éduquer nos enfants de telle sorte, pas en tout cas de leur dire n'allez pas à l'école ou etc. Mais en tout cas de leur dire tout ce qu'ils apprennent à l'école n'est pas forcément vrai, et de se rapprocher en tant que parents de la vérité. Et c'est pour ça qu'il est important que nous-mêmes nous nous nourrissions de contrepoison, parce que là en ce qui me concerne, moi et la majorité, on a tous été empoisonnés par le racisme d'État depuis notre plus tendre enfance. Et donc, ce livre, en tout cas, Autopsie de la négrophobie, vise vraiment à c'est une contre-offensive au racisme d'État, comme d'autres l'ont été avant, comme François Fanon, comme Cher Anta Diop, etc. Et voilà, quand, bien sûr, les vecteurs, l'école et les médias de masse sont des vecteurs importants pour disséminer le racisme d'État, c'est clair.
Ouais, l'idée c'est d'être une alternative à ces médias-là qui sont, en faisant un livre comme ça, en faisant des blogs, en faisant des actions, l'idée c'est de contrecarrer un peu tout tout le pouvoir que détiennent les médias de masse, l'éducation nationale, et qui eux relaient à fond le racisme d'État, en tout cas les idées que ça, ouais, que ça défend, quoi.
C'est clair, mais en tout cas on n'est pas, on peut pas prétendre contrecarrer, en tout cas comment dire, stopper la machine, même si on peut en tout cas essayer de la rouiller, de rouiller la machine. Ce sera déjà pas mal, parce qu'on sait que c'est une grosse machine qui est très très puissante, et on n'a clairement pas les mêmes moyens. Il y a des moyens colossaux qui sont en face de nous et qui et ils sont très très puissants. Et donc en tout cas nous sommes, on sait qu'on est dans un état de résistance, et donc ce livre Autopsie de la négrophobie est une arme de résistance face à l'état néocolonial français.
Justement, Issa, par rapport à ce livre, ce que je voulais te dire, c'est que je trouvais super intéressant en fait toute la partie où, justement, pour faire rouiller la machine étatique, vous faites des liens entre l'époque coloniale et aujourd'hui, que vous appelez néocolonial, avec toute cette idée du retour du refoulé. Et notamment le fait que vous arrivez à faire des liens entre avant et maintenant, par exemple avec toute cette polémique qu'il y a eu sur le racisme anti-blanc l'année dernière, et qui va revenir, et vous rappelez que à l'époque coloniale, l'administration, l'État français de l'époque, disait que les Noirs étaient blancophages, ouais. Ce qui veut dire qu'ils mangeaient les Blancs, avec ouais. Cette référence au cannibalisme, t'es Noir, t'es cannibale. Et finalement, le racisme anti-blanc est un prolongement de ce genre de termes qui étaient utilisés à l'époque pour faire peur aux Blancs, pour leur faire peur des Noirs.
Bien sûr. Bien sûr. Et il est important de noter aussi que ils ont trouvé des termes pour qualifier les gens qui mangent les Noirs, enfin qui mangent les Blancs, et des gens qui aiment les Noirs, etc., négrophiles. Donc ils ont trouvé des termes pour les qualifier, mais aucun terme pour qualifier le racisme qui caractérise les Noirs, enfin que les Noirs subissent. Et ça démontre vraiment que l'État français essaie vraiment de nous enfumer depuis des siècles. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'appeler ce racisme-là négrophobie, parce que c'est important de le nommer. Comment peut-on accepter qu'un racisme qui dure depuis des siècles ne soit pas nommé? C'est vraiment, je dirais, c'est un truc de fou, quoi.
Mais justement, là-dessus, le titre du livre, il est un peu ambigu, parce qu'on fait l'autopsie sur un cadavre.
Oui, justement.
Or, la négrophobie existe encore.
Tout à fait. Et on l'a appelé autopsie parce que tu pourras lire, enfin, tu l'as lu, il a écrit en sous-titre « Chronique d'une mort annoncée ». Et donc, quand qu'on a engagé cette lutte, notre but, c'est de tuer la négrophobie. Donc, quand on dit chronique d'une mort annoncée, peut-être que ça peut paraître optimiste ou prétentieux, mais même si on sait qu'on n'a pas l'avantage et qu'on est en position de résistance, notre but, c'est de tuer la négrophobie. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé autopsie. Et autopsie, ça fait vraiment un peu... film scientifique américain, etc., qui permet, enfin qui donne en tout cas l'impression de décortiquer, analyser le corps, etc. Et c'est ce qu'on fait dans ce livre. On analyse, on décortique vraiment le racisme d'État sous toutes ses formes, dans le fond, et voilà, quoi.
Toujours dans le bouquin, pour y revenir un peu, il y a une partie sur ce que vous avez appelé le racisme populaire décomplexé, et après le contre-racisme populaire décomplexé. Est-ce que tu pourrais, quelques mots, nous dire ce que c'est ?
Le racisme populaire décomplexé, c'est quelque part la mise en pratique du racisme d'État. Parce que l'État français, on sait qu'il ne peut pas, en tout cas il ne peut plus se permettre disséminer un racisme directement, c'est-à-dire par voie vraiment directe, sans utiliser la subtilité, etc. Donc l'État français, son rôle, c'est de de quand on parle de racisme, c'est ça, c'est vraiment c'est disséminer un racisme insidieux, subtil, pour qu'ensuite les agents partisans, on va dire, vont eux ont pour mission de mettre en œuvre ce racisme d'État. Et donc la mise en œuvre de ce racisme d'État, c'est le racisme populaire. Quand on voit des gens qui tiennent des propos comme Sarkozy qui dit que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, des Zemmour qui disent que les Africains n'ont aucune conscience fraternelle, etc. Enfin, je pourrais en citer plein. Il y a eu Sevran, il y a eu Fogiel, il y en a plein. Mais en tout cas, ces gens-là ont eu comme un aval de l'État pour en tout cas ils ont eu la bénédiction de l'État pour pouvoir proférer leurs propos et pour pouvoir mettre en place disséminer leur idéologie raciste. Et c'est pour ça qu'on a en tout cas notre but, c'est vraiment de pas personnifier le racisme, mais de dire que ces gens-là sont des victimes comme nous, sauf que eux, ils ont ce complexe de supériorité. Et donc dire que ces gens-là ne font que mettre en œuvre ce que l'État a manigancé depuis et manigance jusqu'à présent, quoi. Et pour parler du contre-racisme populaire, c'est ce qu'ils appellent racisme anti-blanc. Nous, on ne peut pas l'appeler racisme anti-blanc, parce que ça, comme tu disais, Joe, ça, c'est de l'enfumage. C'est une manière de nous culpabiliser, et ensuite, leur racisme d'État soit encore plus fort et ne puisse plus être contesté, on va dire. Parce que le racisme, en tout cas ce qu'on appelle contre-racisme décomplexé, lorsqu'on est attaqué, naturellement l'être humain va contre-attaquer. Par exemple, on va recevoir une offensive, il y a une contre-offensive. Lorsqu'il y a un argument, il y a un contre-argument. Après, on ne rentre pas dans le débat de la morale. En tout cas, nous, il est clair qu'on n'est pas dans ce genre de contre-attaque. Nous, on préfère attaquer efficacement l'État et toutes ces institutions. Mais parler de racisme anti-blanc, dire le mot racisme pour anti-blanc, alors que on sait que ce sont des propos isolés qui n'ont aucune conséquence sur les personnes qui sont visées, c'est là qui est vraiment la supercherie, parce que par exemple le racisme d'État qui nous concerne, il y a des conséquences. Il y a la discrimination à l'emploi, au logement, il y a des morts dans les fourgons de police, il y a des contrôles aux faciès. Alors si le racisme anti-blanc a ces mêmes conséquences, là on pourra parler de racisme, mais c'est loin d'être le cas.
Ouais, c'est pas un racisme institutionnalisé.
C'est pas systémique.
Donc il n'y a pas lieu du tout de parler de ça.
Il n'y a pas lieu de parler de racisme. Ce sont des choses isolées qu'on ne cautionne pas, mais en tous les cas, on ne peut pas parler de racisme. Et c'est là la supercherie, parce que c'est toujours la tactique de nous culpabiliser pour qu'on ne puisse plus, se plaindre ou essayer de demander quoi que ce soit. Un peu comme ils ont fait pour le trafic négrier, l'esclavage, quand ils disent que les Noirs se sont vendus entre eux. C'est la même tactique.
Puis c'est une façon de parler d'un soi-disant racisme qui existerait si tout le monde était sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas, parce que racisme anti-blanc, rapprocherait de quelque chose qui signifierait en gros que voilà, il y a une espèce de zone neutre et dans cette zone neutre, tout le monde attaque les uns les autres. C'est le racisme, c'est mal, etc. En occultant finalement que bah il y a pas le même pouvoir et pas la même histoire qui contrecarre ces deux racismes-là. Et de fait, c'est parler de quelque chose qui est même pas valable, on va dire, en fait social, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Si tu as quelque chose pour conclure un peu sur ce bouquin, on va passer après au frère de Soledad et on reviendra rapidement, si on a le temps, je sais pas, sur la famille Saunera, à qui fait la gueule, là. Il me dit non.
Ah,
non.
Ça va être dur. C'était juste pour m'en rappeler, voilà, le nom du bouquin. Donc Autopsie de la négrophobie, on peut donc le trouver en vous contactant, notamment sur le Facebook, sur les 5 librairies qu'on a citées tout à l'heure à Paris, et puis sur le site B-Boy Conscient, en espérant qu'il y ait d'autres librairies qui acceptent de le vendre un peu partout, parce que voilà, c'est un bouquin vraiment important et essentiel. Il n'y a pas en littérature française... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de livres sur cette thématique-là, donc voilà, c'est important.
C'est un concept qui est nouveau et c'est un concept qui n'a jamais été.
Et puis c'est écrit par des gens de terrain, quoi. C'est pas des gens qu'on voit jamais sur le terrain et qui écrivent sur d'autres personnes. Là, au moins, c'est vous qui l'avez rédigé, les propres acteurs du truc, quoi.
Et personne ne parle à notre place. En gros, personne ne vient nous dire comment combattre le racisme, etc., comment analyser. Là, on fait tout nous-mêmes et voilà, il n'y a pas... Vraiment, on sort de ce paternalisme qui a toujours été... qui a toujours eu lieu depuis des siècles et des siècles. Et c'est important.
Ok.
Et je voudrais dire, pour conclure, que quand le combat est vraiment idéologique, c'est vraiment... il faut vraiment avoir une prise de conscience que tant qu'on n'a pas, on n'arrive pas à admettre qu'on a un statut de néocolonisé et donc qu'on est quelque part empoisonné par l'État français, on ne pourra pas le combattre efficacement comme un alcoolique qui n'admet pas qu'il est alcoolique, etc. C'est vraiment important de qu'il y ait cette prise de conscience là pour pouvoir être efficace, quoi.
Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu et puis d'avoir accepté de
merci
parler
à
du
vous,
bouquin.
En tout cas, de nous avoir invités, c'est très très important.
Et puis on relaiera de toute façon les prochaines actions, s'il y a jamais un autre bouquin ou d'autres choses à venir, en tout cas, on suit tout ce que vous faites. Donc,
merci beaucoup.
On va enchaîner assez rapidement, ça va être la fin de l'émission. On voulait parler avec Manu et Joe de nouveau bouquin de Syleps qui sort d'ici 15 jours, 3 semaines, non ?
Le 13 février, exactement, il sera disponible en librairie.
Ouais, Les Frères de Soledad.
C'est ça, écrit par George Jackson.
Voilà, si vous pouvez nous en parler un petit peu.
Ben, on en a déjà parlé à l'émission précédente, mais on va en dire quelques mots. Donc George Jackson, c'était un prisonnier noir américain. Qui est rentré en prison à 18 ans avec une peine de 1 an reconductible et qui est mort assassiné par un maton 10 ans après sans jamais avoir revu extérieur. Et en gros, c'est un recueil de lettres écrites à sa mère, à ses proches, à Angela Davis, à des membres du comité de soutien, et qui en gros, voilà, qui sont précédés d'une grosse intro. Et c'est en gros le bouquin phare, en fait, d'un énorme mouvement qu'il y a eu dans les prisons entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70. Un mouvement, voilà, qui était dans un contexte de développement du mouvement de libération noire à l'extérieur, du mouvement anti-guerre, de mouvement d'autodéfense armée. Et donc voilà, c'est vraiment un acteur principal et c'était quelqu'un de très... C'était Huey Newton des Black Panthers, disait que c'était une légende dans le système pénitentiaire américain parce que c'est quelqu'un, voilà, qui a su se faire respecter en prison et qui a commencé par évoluer dans des gangs qu'il a politisé et qui, voilà, après vraiment a commencé à étudier les luttes anticoloniales, le marxisme, etc., et qui est devenu vraiment un prisonnier qui se définissait comme politique. Donc c'était vraiment une époque où il y avait les prisonniers noirs et latinos notamment se politisaient par milliers dans le système pénitentiaire américain et du coup déclenchaient de gros mouvements, des émeutes, des grèves, des plateformes de revendications. Et voilà, donc dans... Ça, il est mort en 71 et quand il est mort, il y a des prisons qui sont soulevées dans tout le pays pour lui rendre hommage, notamment à Attica, donc la plus grosse révolte pénitentiaire des États-Unis. Donc voilà, franchement, c'est des lettres qui sont vraiment puissantes, qui ont été publiées une première fois en 71 en français.
Ouais, il y a une nouvelle préface là. Dans
voilà, les... nouvelle préface qu'on a écrite sur justement qui revient sur toute cette histoire de révolte en prison dans les années 60. 60-70, il y a une préface de Jean Genet qu'il avait écrit à l'époque et tout quand il avait été aux États-Unis, qui s'était rapproché des Black Panthers. Et il y a une préface aussi, un avant-propos de Jonathan Jackson, donc c'est le fils de l'autre Jonathan Jackson, c'est-à-dire le frère de George Jackson, qui est mort à 17 ans dans une prise d'otage dans un tribunal pour essayer de faire libérer son frère. Et là, voilà, et c'est une traduction qui a été révisée, donc, parce qu'il y a quelques trucs qui étaient quand même datés dans la traduction de Gallimard de 71.
Puis peut-être pour se rendre compte de l'impact qu'a eu le livre donc en 70-71 aux États-Unis, il y a eu plus de 1 million de ventes, voilà, pour voir un peu l'effet et le symbole qui était devenu George Jackson à l'époque. Et justement, dans sa préface qu'on a traduite, donc la préface a été traduite par le collectif Angle Mort, et ce que dit donc le neveu de George Jackson, c'est aussi ça, c'est que en fait son oncle était devenu un vrai symbole, on va dire peut-être à la hauteur d'un Che Guevara des temps modernes, ou d'un Fidel Castro, ou en tout cas voilà, George Jackson, c'est comme disait Manu, s'est formé en prison, et notamment au niveau théorique, en lisant Lénine, Marx, Trotsky, Ho Chi Minh, fait énormément référence à la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc voilà, aujourd'hui il a formulé une sorte de théorie de la guérilla révolutionnaire en monde urbain. Donc voilà, c'est pas des récits du 19e siècle, ça date d'il y a 40 ans, mais c'est...
Ça s'inscrit dans...
Voilà, c'est aujourd'hui, c'est vraiment pertinent. Et voilà, nous, ce qu'on disait, ce qu'on a signé dans l'introduction, il y a une partie qui s'appelle, justement, à la fin de l'introduction, des frères de Soledad, aux frères de Villiers-le-Bel. On essaie de faire des liens et de voir comment on peut, finalement, nous-mêmes s'armer intellectuellement, idéologiquement, avec ce qu'a pu dire George Jackson à l'époque, pour faire face au racisme d'État aujourd'hui, aux formes d'oppression dans la société française de 2014. Et il l'a écrit avec une telle limpidité, il est tellement limpide et tellement puissant que voilà, achetez ce livre, lisez-le, faites-le tourner, et à partir du 13 février dans toutes les librairies, toute la France.
Ouais, voilà. Édition Syleps, et donc c'est dans la collection Radical America.
C'est ça,
exact. Ouais.
Où il y a déjà d'autres bouquins, enfin Black and Red, il y avait également sur le bouquin de C.L.R. James.
Sur la question noire, et le dernier, James Baldwin, Le jour où j'étais perdu, donc un scénario de la vie de Malcolm X. Et voilà, donc à venir dans cette collection, il y aura une biographie de Malcolm X, un gros bouquin là qui est en cours de traduction. Et voilà, et d'autres bouquins qui sont
inédits. Inédit, sont en chantier. C'est un bouquin inédit en France, il faut le dire. Ouais. Voilà, il est en cours de traduction.
Qui a été publié il y a 2 ans aux États-Unis. Voilà, qui a vraiment super bien marché, quoi, qui a gagné pas mal de prix, puisque c'est un bouquin qui a demandé beaucoup de recherche. Donc voilà, qui éclaire pas mal d'aspects de la vie de Malcolm X, qui est assez méconnu en France, quoi, on va dire. Ou qui est connu juste pour certains trucs. Donc,
voilà, on connaissait l'autobiographie, mais là c'est la biographie qui a été écrite par l'historien Manning Marable, et qui sera traduite là pour le deuxième semestre.
Ouais, c'est la fin de l'émission. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être venu.
Merci.
Juste donner un petit rendez-vous de formation, on a parlé hors micro tout à l'heure, en 2 secondes, donc à l'IREMO, donc les formations avec le Pierre, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc de avec la BAN et le Pierre, donc Métro Maubert Mutualité, 5 Place des Carmes, dans le 5e, et le prochain rendez-vous, donc c'est... C'est quand ? C'est ce samedi-là ? Ce dimanche-là ?
Donc 26.
À
26 janvier.
Oui,
à 14h30. Voilà.
Si, je vais juste placer que là, tout de suite, il y a la prise, parce qu'on est vendredi et qu'il est 19h à peu près, il y a la présentation du livre-album de Scalpel à couteau tiré. Ouais. C'est à la librairie Libraire. C'est 111 boulevard de Ménilmontant, au métro Ménilmontant. C'est de 19h à 21h. Vous avez juste le temps de venir. Et après, on enchaînera avec un son de système B-Boy conscient au Saint-Sauveur, 11 rue des Panoyaux, à 100 mètres de la librairie. Donc c'est ce soir, là, tout de suite. Et bon week-end à tous, bon courage, et on se retrouve d'ici 15 jours avec l'émission et tout.
Frontline 106.3.